Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce vendredi est Gladys Grelot, elle est conseillère régionale de Bretagne dans le groupe communiste et progressiste, et elle est venue tout spécialement en évitant les embouteillages depuis Rennes pour être avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour Stéphane, je suis venue depuis Landerneau.
Depuis Landerneau, j'ai dit une bêtise. Depuis Landerneau, voilà, on va tout savoir, mais avec les embouteillages qui vont avec quand même.
Exactement.
On va parler de politique ce matin avec une actualité chargée, avec cette paix que l'on espère en Ukraine et les négociations entre la Russie et Donald Trump, les États-Unis. Un rapprochement quand même qui est assez surprenant quand on regarde un petit peu l'histoire politique des États-Unis ou même de la Russie et de l'URSS avant, avec quand même aussi, j'allais dire, la mise sur la touche, si vous me permettez ce terme un peu trivial, de l'Europe et même presque de l'Ukraine. Est-ce que c'est inquiétant pour la suite ?
Je crois qu'on est face à un nouvel ordre mondial qui est en train de se reconstituer, de se repositionner, avec une grosse difficulté, en tout cas de notre point de vue, c'est le fait de balayer les valeurs qui régissent, en tout cas l'ordre de paix qu'on essaye de maintenir à l'échelle française et à l'échelle européenne, les valeurs de fraternité, d'égalité et je dirais surtout d'humanité. Et de ce point de vue-là, je me permettrais juste de revenir quelques minutes sur cette notion de guerre qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, dans la précipitation avec notamment effectivement l'élection de Trump et l'invasion de Poutine de l'Ukraine. La guerre, ça n'est pas un concept. La guerre, c'est un massacre. C'est un massacre d'êtres humains, d'hommes et de femmes. Et j'ai le sentiment dans beaucoup de quand j'écoute les interviews politiques, les radios, les réseaux sociaux, que les femmes et les hommes en costume trois pièces dans les bureaux parisiens ou autres n'ont pas conscience de ce qu'est la guerre. La guerre, ce sont des femmes et des hommes qui meurent. Ce sont des enfants orphelins, des mutilés. C'est cette réalité extrêmement dure, ce sang qui coule. Et je crois qu'il est important de le rappeler. Parce que j'entends beaucoup de discours de va-t-en-guerre, de bellicistes. En premier lieu, notre président et un certain nombre de députés à l'échelle nationale. Mais je crois qu'il faut revenir très clairement sur ce que ça engage et ce que ça veut dire. Et peut-être rappeler quand même que la guerre, comme le disait Paul Valéry, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se battent pas. Et vous m'avez donné la parole ce matin et je crois que c'était important de le rappeler parce que nous, en tant que communistes, nous prenons un chemin de paix. Un chemin de paix qu'il est extrêmement difficile à trouver, mais nous prenons une diplomatie ambitieuse. Vous parliez d'histoire. La diplomatie française a des lettres de noblesse et une capacité à intervenir à l'échelle nationale pour porter ce message. Et je crois que Emmanuel Macron a perdu ce lien qui permettait de porter ce message de paix.
Est-ce que justement aujourd'hui, alors on sait que les réseaux diplomatiques ont été très amenuisés ces dernières années, est-ce que justement c'est peut-être l'occasion de se saisir du moment et de renforcer cette diplomatie française, peut-être plus largement européenne, mais cette diplomatie française qui a du mal à se faire entendre aujourd'hui sur la scène internationale ?
Pour moi, c'est bien la diplomatie qui permettra d'arriver à une paix. Et en effet, on ne parle jamais avec son ennemi de gaieté de cœur. On doit faire des compromis. Et chacune des guerres qui a pu y avoir s'est soldée par un accord où chacune des parties arrive à avancer et à pouvoir avoir la paix. Et je crois que là, il faut vraiment revenir à l'enjeu et à l'intérêt des peuples. Le peuple ukrainien, les femmes et les hommes qui sont en zone de guerre, le peuple russe, parce qu'on parle de Poutine, mais moi je vous parle des Russes qui habitent en Russie, je vous parle des Palestiniens, je vous parle des Israéliens, et on a quelques noms d'hommes, des hommes, Poutine, Trump, Netanyahou, qui décident d'aller en guerre et de bouleverser le quotidien de toutes ces femmes et ces hommes qui souhaitent avoir un avenir pour leurs enfants, une éducation, une culture, développer les services publics dont on voit qu'il y a aussi une facilité à pouvoir évacuer ces sujets-là, mais qui sont là pour améliorer le quotidien des peuples. Écoutons les gens et c'est ce qui permettra d'aboutir à la paix.
Est-ce que finalement l'initiative de Donald Trump, alors on peut critiquer Donald Trump, hein, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, hein, de la politique de Donald Trump vis-à-vis même de l'Europe et de la France aussi, mais est-ce que finalement l'initiative de Donald Trump, elle n'est pas bienvenue pour arrêter très vite un conflit voilà, qui n'aurait jamais dû démarrer de fait ?
Nous ne sommes pas naïfs au Parti communiste. Nous avons bien en tête ce que souhaite Donald Trump. Donald Trump a été élu, soi-disant, pour améliorer la condition de vie des Américains et pour autant les met dans un marasme économique aujourd'hui qui va toucher les plus pauvres.
On a vu d'ailleurs la bourse de New York, Wall Street, vraiment descendre ces derniers jours avec l'annonce, entre autres, des droits de douane, on va y revenir. Mais justement, cette politique, finalement, elle nuit aux Américains, cette politique de Donald Trump.
Elle nuit aux Américains et dans ce nouveau repositionnement à l'échelle internationale, je crois qu'il faut en effet ne pas être naïf et que la France, pour le coup, ait une position de sécurité et de défense nationale. Et en Bretagne, nous avons aussi un certain nombre de personnes et d'employés qui travaillent pour la défense nationale. Je pense à Brest et je pense à Lorient, moins dans les Côtes d'Armor. Mais en tout cas, il est important pour la France qu'elle se repositionne et qu'elle puisse avoir une défense nationale sûre, et qu'on ait non pas une attaque et une va-t-en-guerre en fait, mais bien qu'on puisse défendre nos positions en tant que nation française, oui.
Alors justement, sur la politique de défense française, on en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de commentaires ces dernières heures, ces derniers jours dans la presse ou dans les médias, que ce soit à la télévision ou à la radio, à propos de la réflexion du président de la République autour de la force de frappe nucléaire, de la force de dissuasion nucléaire française. Est-ce qu'il faut qu'elle devienne européenne, cette force de dissuasion nucléaire française ? Est-ce qu'elle doit rester vraiment au cœur de la décision française, à savoir le chef de l'État ? Ou est-ce qu'on doit un petit peu l'élargir pour protéger aussi les autres pays européens de velléités telles que celles de Poutine ?
Encore une fois, je reviens sur le repositionnement de l'ensemble des pays à l'échelle nationale et je crois que la précipitation est de mauvais conseils. Je crois en effet qu'il est nécessaire de pouvoir raison garder. La force nucléaire française est essentielle pour nous et nous positionne tactiquement sur un positionnement spécifique. Et je crois que l'échelle européenne n'est pas forcément, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où on se parle, et encore une fois, compte tenu de toutes les précipitations et les positionnements très changeants qu'il peut y avoir ces derniers jours et ces dernières semaines. En revanche, ce que je vois, c'est qu'à l'échelle européenne, nous avons des pays qui sont dirigés par des hommes et des femmes d'extrême droite. Je pense à la Hongrie, je pense à l'Italie, je pense à la Belgique. Et je crois, sans être tout à fait naïve, que la force nucléaire française est très bien restée pour la France, en tout cas dans un premier temps, pour pouvoir réorganiser les choses. On ne sait pas ce qui va se passer ailleurs. Nous vivons dans une démocratie en France, ce qui n'est pas le cas partout dans le reste du monde.
avec toujours ce discours de guerre, finalement, cette économie de guerre. On va en parler de l'économie de guerre. Cette économie de guerre prônée par le président de la République et ce discours vers le réarmement de l'Europe, vers le réarmement de la France, en disant on ne souhaite pas aller en guerre, mais il faut se protéger, il faut se préparer. Et on parle aujourd'hui de faire appel à l'épargne des Français, finalement, pour financer cet effort. J'ai du mal à croire les mots que je dis, mais cet effort de guerre, finalement.
La guerre et l'économie de guerre nous permet de se rendre compte avec quelle facilité on a à trouver de l'argent pour pouvoir tuer des femmes et des hommes, ici ou ailleurs, alors que la difficulté qui a été celle de trouver quelques milliards pour équilibrer le régime des retraites dans lesquels de nombreux Français, de nombreuses Bretonnes sont allés dans la rue, me laisse sans voix. Et je crois qu'encore une fois, nous devons être clairvoyants et bien comprendre ce qu'il est en train de se passer. Comme disait un très bon chanteur, mourir pour des idées, l'idée est excellente, mourir pour de l'argent, moi, je n'irai pas. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que derrière cette réalité de guerre, on nous fait porter un sacré fardeau de détricotage des services publics et de l'amélioration de la situation et du quotidien de l'ensemble des Français.
Selon vous, on est en train de se focaliser finalement sur cette économie de guerre en se détournant un petit peu des grands sujets finalement économiques, y compris français et là encore peut-être plus largement européens.
Tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait de parler de l'hôpital public, de parler de l'école, qui sont dans des situations extrêmement difficiles, est complètement absent du débat. La facilité avec laquelle l'ensemble des gouvernants ont réussi à déporter le débat en occultant totalement la réalité, les besoins des citoyens français est complètement surréaliste. Ce que demandent les Français, c'est l'augmentation de leur pouvoir d'achat, c'est d'avoir un emploi, de pouvoir construire un foyer, avoir un logement décent. Et je crois que ces sujets doivent revenir sur le devant de la scène parce que c'est ces sujets qui sont d'actualité et sur lesquels nous devons nous précipiter à agir, à l'inverse d'aller en guerre contre je ne sais qui ne nous concerne pas aujourd'hui.
Ceci dit, il faut pouvoir se défendre si demain, on pointe du doigt la Russie, en tout cas le président de la République l'a fait. On a vu également les députés qui ont adopté une résolution par rapport à l'Ukraine pour saisir les avoirs russes qui sont gelés en France et là aussi dans quelques banques européennes pour financer cet effort de guerre. Est-ce que c'est une bonne idée plutôt que de détricoter justement un budget qui est déjà assez fragile ?
Je crois que la France est une nation qui a les moyens de réfléchir à une manière de pouvoir faire les deux. En effet, la question de la défense nationale est essentielle et nous l'avons et nous le portons. On est sur une ligne de crête extrêmement difficile à tenir. En revanche, on ne peut pas dire c'est soit l'un ou soit l'autre, en fait. C'est pas tenable et des positions qui doivent être prises par le gouvernement. La Bretagne, en tant que défense, emploie des milliers de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Ça n'est pas des sujets que nous découvrons. Ça n'est pas une industrie sur laquelle nous ne sommes pas reconnus à l'échelle internationale. Poursuivre, encore une fois, pour défendre notre nation et non pas pour vendre des armes à d'autres.
Alors, je vous avais promis qu'on reviendrait sur la politique de Donald Trump. Il y a beaucoup à dire. Donald Trump qui veut renvoyer chez eux les immigrés illégaux, qui veut annexer le Groenland, peut-être même en passant le Canada. Ça se passe pas très bien. En tout cas, les Canadiens ne sont pas forcément d'accord. On a l'impression d'une politique bulldozer, business également. Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant pour... j'allais dire les grands équilibres mondiaux et la marche du monde.
On est dans une nouvelle étape du capitalisme qui sert aussi qui se sert des démocraties, en tout cas ce qu'il en reste au niveau des États-Unis en ce moment, pour pouvoir trouver des issues et d'une violence de plus en plus forte et l'absence totale de répartition des richesses posées sur la table de cette démocratie aux mains de quelques hommes politiques, mais surtout des milliardaires qui ne se soucient que du pouvoir de l'argent entre les mains de quelques-uns, au détriment du quotidien, encore une fois, et de la réalité des besoins du peuple. Et en effet, c'est dramatique. C'est des situations sur lesquelles on l'a vu en Amérique latine avec la politique à la tronçonneuse, qui sont aussi dans ces mêmes logiques. Nous, au Parti communiste, nous portons un discours diamétralement opposé d'écoute, de défense des peuples et de d'émancipation de chacune et chacun.
Avec, vous le disiez à l'instant, Gladys Grelot, la montée de l'extrémisme, du populisme dans de nombreux pays, vous citiez l'Amérique latine avec Javier Milei, entre autres, mais ici, sur notre continent, c'est une réalité aussi. On voit aussi les États-Unis, on évoquait les ingérences, les États-Unis avec Elon Musk qui a soutenu le parti d'extrême droite allemand, par exemple. Justement, est-ce qu'il y a aussi une inquiétude de voir les peuples être manipulés par les réseaux sociaux, par certaines formes d'ingérence, et se tourner finalement vers le populisme pour espérer quelque chose qu'ils n'ont pas obtenu, peut-être avec les partis politiques traditionnels en leur temps.
Effectivement, je crois qu'il est nécessaire de pouvoir continuer à résister. La situation est extrêmement difficile. Je pense que pour une grande partie, la gauche a aussi occulté les réalités, les difficultés dans lesquelles on était en réduisant drastiquement les services publics. Je pense encore une fois aux services publics hospitaliers, je pense à l'école et le service public est au service du plus grand nombre. Et à partir du moment où on détricote ce service public, cette sécurité sociale qu'on a mis en place à la sortie de la guerre, alors qu'on était exsangue financièrement, je le rappelle, cette répartition des richesses et ce modèle social que nous avons défendu et qui est remis en cause par Donald Trump, par les extrêmes droites qui sont en cours à l'échelle européenne, je crois qu'il est nécessaire d'avoir la voix, de redire que ce qui est bon pour le quotidien et pour les Françaises et les Français, les Bretonnes et les Bretons, c'est bien le service public, de développer ce que nous pouvons avoir ensemble et pas les uns contre les autres, ce que développe l'extrême droite pour le coup.
Avec une extrême droite qui monte, si on prend le cas du Rassemblement National, on le voit à chaque élection progresser, y compris ici en Bretagne, qui n'est pas une terre spécialement qui vote Rassemblement National. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose que les dirigeants, que ce soit d'ailleurs la gauche ou la droite classique, ont loupé, si vous me permettez le terme?
Alors, je ne sais pas si quelqu'un a loupé quelque chose. En tout cas, moi, ce que je vois aujourd'hui, le constat, c'est que, par exemple, en Bretagne, nous avons une industrie de l'agroalimentaire, des femmes et des hommes, plus de 75 000 personnes, des agriculteurs aux ouvriers dans les usines qui travaillent pour nous nourrir et que ces personnes ont été entièrement occultées de leur réalité, de leurs difficultés, des emplois qui sont extrêmement difficiles et sur lesquels la parole politique a souvent était en tout cas légère pour pouvoir répondre à ces citoyens, ces citoyennes qui travaillent et qui font tourner la Bretagne et au-delà. Et je crois que la gauche a une responsabilité à représenter, à revisibiliser ces combats. Ces combats, j'étais notamment avec les ouvriers d'Argel la semaine dernière, sur lesquels plus de 250 emplois à côté de Landerneau où j'habite, à Plouédernes, étaient menacés. Et je crois qu'il est important que la gauche retrouve ses lettres de noblesse et retourner auprès du peuple et des travailleurs pour pouvoir les accompagner, améliorer leurs conditions de vie.
Elle s'est déconnectée finalement, peu à peu, au fil du temps, la gauche de ces travailleurs, du terrain, du social.
pour moi, elle s'est de fait déconnectée. Et parler d'écologie sans parler de social est une vraie difficulté. Sur la question de l'agroalimentaire, pour moi, parler des algues vertes, c'est un sujet pour lequel nous devons combattre et faire évoluer l'agroalimentaire. En revanche, ne pas associer les ouvriers et les ouvrières qui travaillent dans ces usines et qui ont aussi des besoins et une amélioration de leur quotidien qui est nécessaire. Les deux bouts doivent être travaillés à gauche.
Alors, on parlait tout à l'heure de ces bruits de bottes, de cette guerre possible. Il y a une inquiétude des Français, évidemment, vis-à-vis de la situation qui est assez inédite, il faut bien le dire. Et puis, il y a une inquiétude des Françaises, des Français, des Bretonnes, des Bretons sur leur avenir économique. On le voit aujourd'hui avec, là encore, ça nous ramène à Donald Trump, les droits de douane, la pression économique des États-Unis sur l'Europe, sur la France, avec des conséquences qui peuvent conduire, là aussi, à des délocalisations, à des licenciements. Comment la gauche peut se positionner aujourd'hui, finalement, pour dire non, pour ne pas accepter la situation ?
C'est très honnêtement, et ça fait plusieurs années que Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, et que je porte à l'échelle régionale, une relocalisation de l'industrie. Je me rappelle très bien de la crise des Covid quand on n'avait pas de masques. Je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire de soutenir l'industrie pour pouvoir servir les intérêts des Françaises et des Français. Je pense à la question des fonderies, je pense à la question des entreprises qui ferment alors qu'elles pourraient tout à fait repositionner, en tout cas fournir et produire de la richesse en France à notre service, ce qui a un intérêt pour le travail et les bassins d'emploi bretons, mais aussi écologiquement, parce que très honnêtement, faire venir des trucs des États-Unis, d'Amérique latine, et je pense à nos pêcheurs, et je pense à nos agriculteurs avec les accords du Mercosur contre lesquels nous sommes, je préfère manger du poisson qui vient de la criée de l'Occitanie que de quelque chose qui vient d'Amérique latine. Et c'est vraiment la relocalisation de la vie. Voilà, l'industrie, c'est aussi la vie, c'est aussi comment on travaille, comment on réfléchit à économiser avec notre réglementation en considérant l'ensemble des obligations environnementales qui sont nécessaires, évidemment.
Et c'est aussi la vie locale, puisque si on consomme local, si on travaille local, évidemment, ça permet aussi à des régions qui se désertifient, y compris, on pense au centre Bretagne en particulier, d'avoir finalement, de conserver finalement des habitants, peut-être aussi de retenir les jeunes qui souvent s'en vont très loin pour trouver du travail. Là, on met entre parenthèses des études, mais c'est ça aussi le but, c'est de conserver ce que souvent les politiques appellent les forces vives. Hein. Je ne sais pas si le terme est bien choisi.
Les forces vives, en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens qui habitent dans un coin et qui souhaitent y rester, c'est nécessaire de pouvoir avoir un emploi et de pouvoir rester vivre au pays, de pouvoir s'y loger. Et c'est un des sujets qu'on travaille à l'échelle régionale avec Fanny Chappé, la maire de Paimpol et conseillère régionale. Et donc, ce sont des points à la région que nous travaillons, qui sont sur le plancher des vaches, mais qui sont une vraie réalité et qu'on devrait beaucoup plus mettre en lumière dans les médias et comme vous le faites ce matin.
Bien, on essaie en tout cas de mettre en lumière et de parler de ces problématiques. Sur le logement, il y a des bruits qui courent depuis quelque temps de peut-être modifier la loi sur le zéro artificialisation des sols, c'est-à-dire permettre de reconstruire. Est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir récupérer des terrains pour construire, ou est-ce qu'il faut là aussi être prudent, parce que là encore on entend le monde agricole s'émouvoir en disant on va encore nous piquer des terrains.
Très honnêtement, à l'échelle régionale et à l'échelle de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard et Laurence Fortin, qui est vice-présidente en charge de ces sujets-là, ont travaillé avec l'ensemble des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des métropoles. Et nous avons un projet que nous avons travaillé collectivement, comme nous savons le faire à la mode bretonne, si j'ose le dire. Et nous avons réussi à nous entendre sur l'utilisation et la mise en œuvre de cette loi qui nous est imposé, en tout cas qui a été voté à l'échelle nationale. Et je crois qu'encore une fois, dire sur le terrain une chose et l'inverse à l'échelle nationale n'est pas bon, ne fait pas bon ménage en termes de crédibilité des politiques auprès des concitoyens. Et je crois que on vit des épisodes d'inondations, des épisodes de sécheresse. Le réchauffement climatique et les questions environnementales sont essentielles. Le ZAN répond en partie à ces questions-là. Les terres agricoles doivent être conservées et je crois que réfléchir, et pour le coup moi-même étant urbaniste dans la vie professionnelle, nous avons les moyens de trouver des modes constructifs et des manières de faire qui sont différentes, qui puissent permettre de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, ce que demandent les gens.
Alors il y a aussi, vous citiez à l'instant le modèle breton. Il est à part le modèle breton avec, on le disait, une extrême droite assez faible par rapport aux autres régions, avec beaucoup de concertations, souvent transpartisanes pour des grands sujets qui concernent la Bretagne, les Bretons, les Bretonnes, on ne les oublie pas évidemment. Est-ce qu'il faut s'attacher à conserver ce modèle, à le faire vivre et surtout à faire en sorte qu'il continue d'exister, ce modèle breton très à part?
Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que les Bretons, les Bretonnes se parlent. Se parlent beaucoup parce que nous sommes la région qui a le plus d'associations pour un nombre d'habitants. Et je crois que c'est ce qui fait le terreau, en tout cas en partie, du fait que l'extrême droite n'arrive pas complètement à percer en Bretagne. Et d'ailleurs, nous avons décidé avec la majorité, Loïc Chesnais-Girard, le président de la région, à maintenir, dans le cadre du budget que nous avons travaillé pour 2025, à maintenir les aides financières pour le secteur de la culture, le secteur du sport et le secteur associatif et des langues bretonnes et le galop. Et je crois que c'est un choix politique, un acte politique fort, à l'inverse de ce qu'on peut voir avec la droite des Pays de la Loire. Mais je crois que c'est essentiel pour continuer à discuter, à échanger et à ne pas rentrer dans des modèles de violence comme on peut le voir sur beaucoup d'autres territoires où les gens ne se parlent plus, s'invectivent et s'aboient dessus, ce qu'on essaye de garder sereinement en Bretagne en ayant des modèles d'échange. Et ça passe aussi par l'association du village qui permet de foot, enfin le club de foot du Kergreis ou Femmes Solidaires avec laquelle j'appartiens à Landerneau, sur lesquels on échange, on discute, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, l'échange est là et c'est ce qui permet de faire société, de faire démocratie, dans le respect de chacun surtout.
Alors à propos de la démocratie, et ce sera presque ma dernière question, car il nous reste, allez quoi, une petite minute, me dit notre réalisateur. Alors on va essayer d'être concis. On a déjà les élections municipales qui pointent à l'horizon avec une forme de préparation à l'élection présidentielle. J'imagine qu'en ce qui concerne le groupe communiste, le parti communiste et progressiste, vous êtes déjà sur le terrain, je vais dire encore sur le terrain, pour préparer la suite.
Nous sommes toujours sur le terrain pour défendre les intérêts des plus faibles et des travailleurs. Mais vous me laisserez un mot pour dire que les élections municipales et les élections législatives qui se profilent, faire un appel aux femmes qui doivent s'engager pour pouvoir aussi porter une voix à la suite du 8 mars aujourd'hui, pour porter une voix et pour porter des choix politiques qui sont nécessaires à la cohérence et à la cohésion de la Bretagne.
Les femmes sont très présentes en Bretagne, ailleurs aussi, évidemment, on ne va pas faire de chauvinisme, et d'ailleurs on les invite. Elles sont pas assez nombreuses à venir parler, comme vous le faites ce matin au micro de Bretagne 5. Voilà, je lance aussi mon petit appel. Un dernier mot, il faut dépassionner la vie politique pour avancer sur les grands sujets.
Ne soyons pas dogmatiques, défendons nos valeurs. La gauche et la droite ne sont pas les mêmes, ne défendent pas les mêmes valeurs, et nous défendons des valeurs d'humanité, d'égalité, de répartition des richesses.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Gladys Grelot, conseillère régionale de Bretagne dans le groupe communiste et progressiste. Vous étiez avec nous ce vendredi matin pour balayer l'actualité politique. Vous êtes venu jusqu'à nous malgré les embouteillages. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.